Étant donné la situation dramatique de la planète, je cherche à savoir comment me passer et même remplacer ce qui me paraît parfois ridicule et aberrant. Prendre la voiture pour faire 2 km, acheter du fumier ou voir l'état des forêts sans savoir quoi faire. Donc, depuis quelques temps, je me demande comment le cheval pourrait redevenir un outil de travail, un collègue, un engagement politique, un compagnon de vie, mais aussi un ami. Le cheval serait-il l'avenir des paysans, des habitants du plateau ? Nos habitudes sont peut-être prêtes à être changées, faut-il encore les bons outils ? Afin de trouver d'autres options pour ne plus être dépendant de ce qui fait du bruit, coûte cher, consomme et pollue, je suis partie à la recherche des personnes qui vivent avec leurs chevaux, des habitants de la montagne Limousine qui partagent leur vie à côté de leurs fidèles compagnons. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis partie à la rencontre de Bertrand Collineau. Cet homme propose une méthodologie qui situe le cheval comme compagnon et outil de travail dans la ferme. Il n'est pas que cavalier, il est aussi enseignant. Il transmet son savoir à ses élèves ainsi qu'aux personnes et chevaux demandant de l'aide. Il a publié il y a quelques mois son premier livre, Un pas vers le langage du cheval, aux éditions Vigo. Il nous en parlera un peu plus tard dans ce reportage. Allez, c'est parti, nous allons à la ferme Le Petit Canada, située à Vian, en Haute-Corrèze.
Alors, ouais, pas forcément pour... Si, il fallait que je les monte, il fallait que je monte dessus. Quand j'étais petit, je montais sur des chevaux qui étaient dans les champs autour de chez mes parents, là, sans savoir d'ailleurs si c'était dressé ou pas. Je passais des heures avec eux et je leur montais sur le dos, je descendais, je les suivais dans leur vie quotidienne. Là. C'est fascinant. Ouais. Drôle de bête quand même, cet herbivore. Regardez s'ils ont fini de manger là-bas. Mon parcours. Alors moi, à la base, j'ai une formation en agricole. Je suis pisciculteur. Voilà, donc j'avais un diplôme agricole. Et ce qui fait que j'ai pu m'installer en agricole sur le plateau et dans le cheval. Donc j'ai pas voulu rester en pisciculture. Parce que c'était financièrement très compliqué d'acheter une pisciculture. Et aussi très très physique. Bien que le cheval, on s'aperçoit que gérer une structure, c'est très physique aussi. Voilà, donc mon parcours après, l'installation fin des années 90 sur le plateau, sur une exploitation qui était abandonnée depuis une quinzaine d'années. Et on a commencé à faire de la promenade, de la randonnée équestre. Moi, j'étais accompagnateur à l'époque, donc très spécialisé dans la randonnée à cheval. Et de fil en aiguille, j'ai eu envie de retransmettre l'équitation. Voilà. Alors la monte western, moi je fais de la monte western, mais de dressage. Ensuite on fait aussi du tri de bétail. La monte western, c'est vraiment utiliser le cheval comme faisaient les cow-boys. Hein, donc c'est ni plus ni moins des ouvriers agricoles en fait. Donc on va dans le troupeau de bétail pour soigner, pour vérifier, pour faire des prophylaxies. Donc c'était le travail des cow-boys. Et ce qui est très intéressant dans l'équitation western, c'est l'éducation justement de nos chevaux pour faire ce genre de travail. Voilà, donc nous on fait tout pour avoir des bons partenaires de travail, des chevaux qui ont peur de rien, qui peuvent avoir une ficelle qui leur passe sous le ventre, sous la queue, dans les jambes. Ils doivent être prêts à tous les problèmes qu'on peut rencontrer sur un ranch. Voilà. En western, on a beaucoup de disciplines différentes. Donc moi, sur les séances d'équitation, je vais choisir un petit peu le courant des disciplines. Ça peut être du trail. Nous, on fait du ranch trail, donc du passage d'obstacles, de barres au sol, par exemple. Ça peut être du reining, où on va travailler sur des cercles au galop. Ça peut être du pleasure, on va travailler des allures un petit peu rasantes, des contrôles de basses allures, alors nous on appelle ça le trot de travail, on appelle ça du jog, du petit galop, des choses comme ça. Donc on s'ennuie pas en fait, parce qu'il y a tellement de disciplines en western qu'il y a toujours des choses à faire et c'est assez ludique. Voilà, donc c'est pas de la reprise, je mets pas les gens en reprise les uns derrière les autres. Moi, mes élèves, elles s'échauffent toutes seules, indépendamment. C'est des petits groupes, hein, de 4, 5, 6 maximum personnes. Donc elles s'échauffent, elles font leur détente. Puis après, je coach sur mes séances pédagogiques. Pour certaines qui passent les galops, donc il y a un programme de galop à l'année qui avec une progression, bien sûr, comme dans tous les centres équestres, on va dire. Voilà. Et une partie travail au sol qui est vraiment très importante.
Pour en savoir plus sur ce qu'implique avoir un cheval, plutôt des chevaux, chez soi, j'ai demandé à Bertrand si je pouvais le suivre dans son travail tout au long d'une matinée.
Prochaine étape. Non, moi, j'ai pas trop d'étapes dans ma journée. Hein. J'ai des programmes de travail, mais j'ai jamais de train-train quotidien. Voilà. Il y a un petit programme de travail, mais on est obligé. De toute façon, on ne sait jamais quel temps trop il va faire, donc on est obligé de s'adapter. S'il fait beau, on va être dehors. S'il fait pas beau, on va plus s'occuper des chevaux, les rentrer, les sortir, faire du bricolage à l'atelier, réparer des choses. Bon, il y a vraiment pas de train-train, quoi. Puis moi, je peux être appelé aussi en extérieur. Je fais beaucoup de travail à domicile.
Quel genre de travail ?
Travail à domicile, c'est vraiment... je suis appelé pour aider les propriétaires de chevaux à gérer des problèmes. Ça peut être des problèmes d'embarquement dans le van, ça c'est assez récurrent, ou des fois juste une leçon d'équitation, ou expliquer un problème particulier. Voilà.
Et comment vous faites pour régler ces problèmes ?
Ah ben, y a toute une procédure justement éducatif qu'on va expliquer à la personne. Donc essentiellement au sol, et voilà, c'est là le but, c'est de, on va dire, de prêcher la bonne parole sur l'éducation des chevaux, parce que souvent on s'aperçoit qu'on arrive et puis qu'il n'y a aucun relationnel entre la personne et puis son cheval, juste de la méconnaissance. Donc on essaye de reformer le couple cheval-cavalier. Voilà, donc c'est lié, hein, de toute façon, en général ce qui se passe au sol, on le retrouve en selle, tout est lié. Donc on essaye de remettre en phase un petit peu la personne et l'animal, quoi. Voilà. C'est mon travail de base. Tu me suis, alors ?
Oui.
Allez, c'est parti.
Vous travaillez combien d'heures par jour ?
35, c'est ça, non ?
Je crois que c'est ça.
35 heures, c'est la semaine, je suis bête. Non, je sais pas, on n'a pas de... On ne peut pas travailler à l'heure. C'est un très très mauvais calcul si on commence à regarder combien d'heures on fait, surtout à quel tarif, quoi. Là, on se fait peur. Hein. Donc je sais pas, je commence vers 8 heures du matin. Hein, je me presse pas trop le matin. Et après, le soir, très très souvent, on est jusqu'à la nuit, quoi. Ça c'est assez régulier. Hein. Voilà. À la nuit, je veux dire, même quand la nuit tombe tôt l'hiver et quand elle tombe tard le printemps et l'été, hein, c'est toujours à la nuit. Hein. Donc ça fait quand même des bonnes journées.
Et tous les jours de l'année ?
Ah oui, ça par contre, pas de vacances, pas de week-end. Hein. Voilà, des petits temps d'arrêt quand on peut de quelques jours, mais c'est très rare. Donc là, moi, j'ai récupéré quelques tourbières parce qu'on a une herbe sur le plateau de 1000 vaches, qui s'appelle la Molini, qui est une herbe qui pousse les pieds dans l'eau, qui est assez fragile et assez pauvre, mais nous, on s'en sert beaucoup pour les animaux, les anciens, ils s'en servaient aussi, parce que c'est une herbe qui pousse tout l'été, même en cas de sécheresse, là, ces dernières années, nous, ça nous a sauvé notre été. Parce que tous les bas-fonds, en fait, on met nos poneys. Moi, j'ai des vaches galloway aussi qui mangent ça. Et donc, ça évite de donner du foin, alors que sinon, on serait au foin dès le mois d'août. Donc, on n'a pas besoin. Donc là, moi, je suis en train de nettoyer les tourbières pour que ça puisse fonctionner là, avec l'élevage. Voilà.
À quoi elles ressemblent ?
Alors, on va aller voir, là, sur place. C'est une graminée qui est très fine. Alors par contre fragile parce qu'elle elle pousse en dernier, elle n'aime pas le gel du tout. Donc elle va se développer en dernier au printemps, donc assez tard, vers le mois de fin mai, début juin, suivant les températures. Et par contre, très très vite, elle grille dès qu'il y a du moins 2, moins 3, elle fane, et là les chevaux la mangent plus. Donc là on voit là, alors on va s'approcher, là elle est toute jaune. Évidemment, il n'y a plus du tout de... Alors ça forme ce qu'on appelle les touradons. Donc des petites mottes comme ça là, qui sont casse-gueule d'ailleurs, casse-figure, pardon, dans les tourbières quand on marche, pour faire les clôtures, c'est pas évident. Et souvent, il y a les joncs, là. Alors les joncs restent verts, alors ça, ils les aiment pas, mais ils finissent quand même par les manger au bout d'un moment. Alors que la Molinie, il la mange bien. Alors on voit, ça fait comme des petites têtes là, de balai, là, partout. Voilà, donc on a la sphène, puis la mousse, normale. Bon, là, on est vraiment dans des milieux endémiques, hein. On a la gentiane pneumonante, on a la drosera. Et le fait du pâturage, justement, moi je l'ai vu, parce qu'on a 25 ans de recul, le fait du pâturage, on voit ressortir toutes les plantes de tourbière. On a la Nartessie ossifrage aussi, c'est une petite, je crois que c'est de la famille des lys. Et toutes ces plantes-là, quand les chevaux mangent la Molinie, elles étaient un petit peu étouffées par la Molinie, ça fait ressortir vraiment les plantes de tourbière. Voilà, comme dans l'ancien temps où nos anciens faisaient pâturer les tourbières.
Donc ça peut remplacer le foin en été?
Ah oui, nous ça remplace vraiment, ça nous aide énormément pour le fourrage, ça c'est sûr. Alors là j'ai fait enlever les résineux en fait. Je voulais pas qu'on touche au feuillu. Donc j'ai fait enlever les résineux parce que ça fait une masse énorme d'ombre. Ce qui fait que là on va avoir un couvert l'été de feuillu pour les animaux qui est pas mal. Et en même temps un petit couvert végétal dessous.
Et vous avez tout coupé vous-même ou...
Ah bah c'est des entreprises hein, qui font ça. Oui, oui. Okay. C'est des entreprises, oui.
Vous n'avez pas pensé au débardage, par exemple?
C'est pas tellement jouable ici. C'est pas tellement jouable parce qu'au niveau... Si, il aurait fallu l'étudier, mais au niveau de la main-d'œuvre, et puis du coup, c'est... Malheureusement, ça, c'est difficilement concurrençable des entreprises forestières, quoi.
Et pour l'alimentation, est-ce que vous arrivez à être autonome à peu près avec
pour nourrir les chevaux? Pas du tout, malheureusement. Malheureusement, parce que justement, on a des terrains très très pauvres, acides, très acides. On n'a pas d'argile, donc le terroir est vraiment assez mauvais pour arriver à tenir vraiment les chevaux sur de l'autonomie comme ça, ou j'imagine les vaches aussi. Donc on est vraiment obligé d'acheter tout le fourrage. Donc on arrive vraiment à avoir des périodes d'herbe, l'herbe du printemps qui va rebooster vraiment les animaux. Voilà, juin, juillet, et en dehors de ça, on est quasiment au foin tout le temps, quoi.
Ça représente combien par an de nourrir un cheval?
Alors nous, on a une vingtaine de chevaux, là on passe 40 tonnes de foin, et en complément, une tonne et demie à peu près de compléments concentrés, c'est-à-dire céréales essentiellement. Donc c'est assez énorme.
Mais c'est à peu près partout pareil, il n'y a pas que vous...
Ah bah oui, c'est partout pareil. Hein.
Ouais.
C'est partout pareil. Après, il y a des agriculteurs qui ont de l'espace, peut-être moins de bêtes, qui arrivent à avoir, un minimum d'autonomie. Mais je sais que j'ai des collègues agriculteurs qui sont obligés d'acheter du foin, hein, ça c'est sûr. Voilà. Et à l'heure actuelle, le foin coûte très cher.
Et pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a autant de personnes qui s'installent comme ça?
Parce que c'est le miroir aux alouettes, les chevaux. Les chevaux, c'est un côté, justement, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est le rêve, ça fait envie aux gens. On va monter à cheval et on va gagner de l'argent en montant à cheval, c'est super. On va faire de notre loisir notre métier. Le problème, c'est que sur le terrain, Dieu sait qu'on en sait quelque chose, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais non, parce que je suis pas très optimiste, parce que c'est la réalité du terrain aussi, c'est ça. C'est si on dit aux gens, vous allez faire ce métier-là, ça va être formidable, vous allez gagner plein d'argent, vous allez être heureux, ça serait mentir. Ça serait mentir. Heureux, oui, on peut l'être, mais c'est tout. C'est pas mal. On a fait, les 20 dernières années, on a fait que monter en licencié au niveau de la fédération. Et là, ces dernières années, on fait que baisser. Donc il faut faire attention quand même, il y a un moment, ça va se bousculer. Voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de diplômés sur une clientèle qui va être moindre. Donc il va falloir faire attention un petit peu, je pense, dans les années à venir.
Et pourquoi il y aurait moins de licenciés aujourd'hui ?
On ne sait pas trop l'expliquer. Est-ce que c'est parce que les gens ont moins de pouvoir d'achat pour les loisirs, ce qui est possible. Voilà. Proche philosophe ce matin.
C'est parfait, j'adore.
Et pourquoi pas la monte western ? Ça a l'air pas mal comme ça. Pourquoi pas un western version montagne limousine ? Des chevaux qui n'auraient pas peur des grumiers, des espaces adaptés pour eux dans les bourgs. Des communes qui proposent le transport scolaire à cheval, une école qui forme les chevaux au sol avec les cavaliers. Pourquoi pas ? Et toi Bertrand, comment le western est arrivé jusqu'à toi ?
Il y a un côté aussi, il y a un côté rêve de gamin, hein. Quand on voit les westerns, d'ailleurs, les gens dans le milieu ont beaucoup de. Je connais beaucoup de gens dans l'équitation western qui collectionnent les westerns. Hein. Après, le yaou dans les westerns, c'est pas vraiment ce qu'on va ce qu'on va appliquer, parce que justement, on voit souvent dans les westerns des gens qui tirent sur les rênes ou des choses comme ça, alors que nous, on se sert très peu des mains. On a très peu de contact sur la bouche des chevaux. Mais oui, il y a le côté. Le côté aventure, le côté le matériel aussi qui est magnifique, le matériel western, les grands espaces, le travail dans les vaches, ouais, tout ça c'est passionnant. Hein. Mais le western, je trouvais qu'au niveau de l'éducation, et notamment de l'éducation au sol, on allait beaucoup plus loin pour former des chevaux, pour justement sécuriser, parce que alors ça, monter un cheval avec en tête peut-être d'avoir un accident ou de se faire mal, comme je vois les gens, ils ont peur d'aller en extérieur parce que le cheval peut s'emballer et tout. On n'a pas ça en western, nous on peut prendre n'importe quel cheval de l'écurie, partir tout seul en autonomie sans aucun risque, quoi, physique. Donc la sécurité, donc notamment sur nos diplômes western, on va primer là-dessus. C'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas être en sécurité n'aura pas d'examen. Donc c'est vraiment ce qui va primer, donc on va coacher les élèves à être en sécurité en permanence et donc leur donner des clés à cheval pour se mettre en sécurité. Il y a des petites choses qu'il faut connaître, qu'on va apprendre aux élèves et aux chevaux, à justement être concentré avec le cavalier et pas sur un tracteur qui démarre, quelqu'un couvre un parapluie ou voilà.
Après cette longue matinée ensoleillée, nous avons décidé de prendre un temps au Clubhouse pour parler de son livre « Un pas vers le langage du cheval ». Un livre adressé aux propriétaires de chevaux, aux professionnels et aux élèves de centres équestres qui veulent renforcer leur savoir sur le langage du cheval.
Le livre, je l'ai commencé il y a 6 ans, par une envie d'écrire mon travail, enfin au quotidien, en fait, sur une expérience personnelle des chevaux, sur ce que j'avais appris, un peu sur mon parcours, un petit peu au départ pour laisser une trace. Au départ, je voulais le faire pour laisser une trace pour mes élèves, pour ma famille, et puis après, donc le photographe là, du livre, Stéphane Raymond, qui est photographe animalier sur le plateau, m'a dit, est-ce que ça il a lu un petit peu, est-ce que ça intéresserait pas d'autres personnes. Voilà, donc de fil en aiguille, j'ai repris l'écriture, donc le texte, je l'ai fait en 3 ans à peu près, et puis de fil en aiguille, on a parlé d'édition, de machin, moi j'y connaissais rien dans le monde de l'édition. Et puis ça s'est concrétisé voilà, par un livre après maintes aventures. Parce que éditer un livre à l'heure actuelle, c'est vraiment très compliqué, je ne pensais pas à ce point-là. Quoi. Le langage du cheval, c'est pour moi le dressage, l'éducation du cheval s'apparente à une langue vivante, comme on apprendrait l'anglais ou le russe. Il faut apprendre couramment le fonctionnement du cheval. Alors c'est un langage corporel essentiellement. Et comme on apprendrait une langue vivante, il faut pratiquer beaucoup, s'imprégner, travailler. Voilà, donc c'est un vrai langage. Dans le livre, j'ai pas voulu écrire une méthode de travail. C'est vraiment des chemins éducatifs et c'est des chemins éducatifs que moi j'emprunte. Donc c'est une fois de plus mon expérience personnelle. Il y a plein de chemins éducatifs, il y a plein de méthodes, de façons de travailler différentes. Qui ne sont pas plus bonnes ou plus mauvaises les unes que les autres, simplement différentes. C'est d'ailleurs ce que je le dis dans le livre. Voilà, moi, c'est mes courants aussi liés à l'apprentissage que j'ai eu par mes pères, que je retransmets là. Et voilà, une espèce de guide qui peuvent aider des gens aussi à s'y retrouver. Parce qu'il a fallu que je décortique vraiment très, 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 très fort. Tout mon, toute ma façon de faire. Donc il a fallu que je me visualise comment je fais tel et tel geste. J'ai vraiment pris mes gestes à la base pour écrire le livre, quoi. Ça a été vraiment ça. Et pendant l'écriture, je me suis refusé de lire et de visionner des vidéos sur le dressage pour ne pas me parasiter. Moi, j'ai voulu vraiment pas tricher et expliquer vraiment au quotidien comment je travaillais. Après, ça a changé un peu, hein, parce que c'est vrai que je réécrirai maintenant, peut-être, parce que je continue à me former, donc peut-être qu'il y a des choses, même je suis sûr qu'il y a des choses que je ne réécrirai pas de la même manière. Mais voilà, après, il y aura peut-être un tome 2. Hein.
Est-ce qu'on monte à cheval en fait ?
C'est fascinant, monter à cheval. Ça a toujours fasciné les humains et ça fascinera toujours les humains. Tant qu'il y aura des humains et des chevaux sur la planète, on montera à cheval, je pense. Il y a un côté fascinant d'arriver à essayer de correspondre avec un animal aussi bizarre entre parenthèses que le cheval, qui est un herbivore, qui est puissant, qui court très très vite, et d'un coup se sentir. Cet échange de puissance qu'il peut y avoir, là, c'est fascinant, quoi. C'est ça que je pense qui pousse les gens à se dire on va faire 500 mètres à 25 km/h sur un animal. C'est fou, quand même. Je crois qu'il y a un peu de ça, et montée d'adrénaline, d'aller se pousser, puiser dans ses retranchements pour connaître l'animal, je sais pas. C'est un mélange de tout ça, je pense.